vais avoir besoin de la zapette. Je ne sais pas si on l'a, parce qu'il y a un PowerPoint. La zapette, est-ce qu'on l'a quelque part ?
Elle est là.
Elle est là, ok. Ok, donc ça c'est une citation d'Éphésiens 2 et ce n'est pas le texte de la prédication, mais c'est le bon PowerPoint, je rassure les techniciens. Aujourd'hui c'est notre journée de rentrée et il m'a semblé que c'était un bon moment pour vous présenter deux personnages qu'on retrouve dans la Bible et dont je suis prêt à parier que vous ne les connaissez pas. Ils sont partout, vous en avez entendu parler plein de fois. Les prédications tournent beaucoup autour d'eux, mais je suis quand même à peu près sûr que là, spontanément, ils ne vous diront rien. On va essayer. Est-ce que vous connaissez Petros et Litos ? Ben voilà. Vous voyez, je suis content, j'ai trouvé les deux personnages bibliques que vous ne connaissez pas. Alors, on va aller les découvrir dans la première épître de Pierre. Au chapitre 2, 1 Pierre 2, et je vais lire les versets 4 à 8. 1 Pierre 2, versets 4 à 8. Encore habitué. Voilà. Approchez-vous de lui, c'est-à-dire approchez-vous de Christ, pierre vivante, rejetée par les humains, certes, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Vous-même, comme des pierres vivantes, construisez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréés de Dieu par Jésus-Christ. Car voici ce qu'on trouve dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera jamais pris de honte. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les gens sans foi, c'est la pierre que les constructeurs ont rejetée qui est devenue la principale, celle de l'angle, et une pierre d'achoppement, un rocher qui cause la chute. Ils s'y achoppent en refusant d'obéir à la parole. C'est aussi à cela qu'ils ont été destinés. Pardon. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole. Nous savons que toute parole qui sort de ta bouche a vraiment quelque chose à dire et que ta parole est transformatrice. Seigneur, nous voulons l'accueillir pleinement. Nous te prions de nous aider à la comprendre, pas seulement avec notre intelligence, Seigneur, mais surtout avec l'aide de ton esprit. Ouvre-nous les Écritures. Amen. Alors, ce texte de 1 Pierre nous parle de deux pierres. Alors, je sais qu'on dirait le début d'un sketch de Raymond Devos, donc je vais vous le dire plus clairement. Il y a deux mots en grec pour parler de la pierre, du caillou, si vous voulez, dans ce texte. Et ces deux mots, vous l'avez peut-être deviné maintenant, c'est Petros et Litos. Litos, dans le texte qu'on a lu, apparaît presque partout. Dès qu'il s'agit de pierre, c'est Litos dans le grec. Petros apparaît une seule fois, au verset 8, et c'est ce qui est traduit par rocher dans la Nouvelle Bible Second, qui est celle que je viens de lire. Petros, c'est la pierre brute, non dégrossie, non travaillée. C'est celle qu'on trouve dans la carrière de pierre, telle qu'elle. C'est le rocher, c'est le roc. Et Litos, c'est la pierre travaillée. C'est celle qui sert à la construction. Le tailleur de pierre est passé par là. Il a taillé la pierre brute. Il lui a donné une forme. Et de manière pratique, il lui a donné la forme dont il avait besoin pour la rendre utile à l'édifice. Jésus-Christ est Litos, il est la pierre taillée, il est la pierre travaillée, la pierre utile à l'édifice. Et plus encore, le verset 6 nous dit qu'il est la pierre angulaire de l'édifice. Alors cette expression de pierre angulaire, elle vient du prophète Ésaïe, en Ésaïe 28, verset 16. Ésaïe s'en prend là aux responsables de Jérusalem. Il leur reproche de s'abriter dans le mensonge en pensant que ça va les sauver du jugement à venir. Et il annonce que Dieu va mettre en Israël une pierre éprouvée, une pierre angulaire, de grand prix, une pierre solidement fondée, et que celui qui la prendra pour appui n'aura pas à avoir honte. Autrement dit, ce qui peut nous sauver du jugement à venir, c'est cette pierre angulaire qu'est Jésus-Christ. Alors, pour parler de qui est Jésus dans la construction de l'Église, on utilise parfois cette image-là, l'image de la clé de voûte. Vous avez peut-être déjà entendu ou vu cette image. C'est une bonne image puisqu'elle rappelle que Jésus est à la tête de tout l'édifice et elle rappelle surtout que sans lui, tout l'édifice s'écroule. Si on enlève la clé de voûte, eh bien, tout s'effondre. Mais si on veut rester dans le contexte du prophète Ésaïe, il faut partir sur une autre idée qui est l'idée de la pierre angulaire. Vous voyez, je m'amuse bien, je fais des constructions. Alors, là, j'ai mis une photo en bas à gauche, là où ça, c'est pour le coup une vraie pierre angulaire, mais pour qu'on voit un peu mieux à quoi ça peut ressembler dans une construction, je vous ai fait une belle construction en duplo, là, avec cette pierre verte qui est en bas et qui est la pierre angulaire. Cette pierre angulaire, c'est une pierre qui est plus longue que les autres, et contrairement à la clé de voûte, on l'a placée en premier dans la construction. Ce n'est pas quelque chose qui venait clore le travail, c'est au contraire quelque chose qui venait au tout début. C'est sur cette pierre, par exemple, que le bâtisseur gravait son nom. Et c'est surtout à partir de cette pierre d'angle qu'on construisait le reste du bâtiment. C'est en ça qu'elle est la pierre principale. Elle est celle qui va servir de base, de support à tout l'édifice. Sans elle, en fait, il n'y a pas de construction, de la même manière qu'évidemment, sans Jésus-Christ, il n'y a pas d'église. Mais on peut filer la métaphore un petit peu plus loin, parce que si cette pierre est mal fichue, alors c'est tout l'édifice qui est mal construit. C'est pourquoi il est tellement important que le Jésus qui est prêché dans l'Église soit bien taillé selon le fondement des apôtres. Par exemple, Paul dit qu'il prêche Jésus crucifié, et donc une Église qui ne parle que de la résurrection, que de la victoire, sans jamais mentionner les luttes, les défis, les souffrances qui sont liées à la vie chrétienne, par lesquelles tout chrétien passe, eh bien prêche un Jésus mal taillé. Mais Paul dit aussi que si Jésus n'est pas ressuscité d'entre les morts, alors notre foi est vaine. Et donc une Église qui nie la résurrection du Christ, en disant par exemple qu'elle est simplement un témoignage de la foi des apôtres, mais qu'elle n'a pas de rapport en fait avec une réalité historique, ou qui conteste les miracles, prêche aussi un Jésus mal taillé. Et c'est très ennuyeux, évidemment, parce que si cette pierre d'angle est mal taillée, alors c'est tout l'édifice qui est de travers, et parfois il est tellement de travers qu'il met en péril ceux qui s'y réfugient. Or, cette pierre bien taillée, cette pierre d'angle, c'est Dieu lui-même qui l'a posée. Nous sommes appelés à nous reposer sur elle, à bâtir sur elle et à partir d'elle. Dieu veut donc bâtir l'Église avec Jésus-Christ pour pierre angulaire. Qu'est-ce que c'est l'Église ? Ce que nous dit le texte que nous avons lu, c'est que l'Église est constituée de pierres vivantes. Vous-même, nous dit le verset 5, comme des pierres vivantes, construisez-vous pour former une maison spirituelle. Alors, je n'ai pas connu cette époque, mais à l'église de Tours, où j'étais avant, l'église baptiste de Tours, quand ils ont investi le bâtiment qu'ils ont acheté dans les années 60, ils ont construit un beau baptistère, et ça c'était chouette, et puis ils ont construit aussi une chaire pour le moins surprenante. Je n'ai pas de photo, hélas, parce qu'elle n'existait déjà plus quand moi je suis arrivé là-bas, mais je crois honnêtement avoir retrouvé le modèle sur Internet, c'était à peu près ça. Ça ressemblait à ça. Alors, c'est une blague, évidemment, hein. Ça, c'est un bunker. Mais vraiment, ça ressemblait à ça. C'était un truc énorme, en béton armé, derrière lequel le pasteur pouvait se réfugier en cas de lancer de tomates ou de cailloux, ou ce que vous voulez. C'était impressionnant, absolument inamovible. D'ailleurs, l'Église, un jour, a décidé de détruire cette chaire pour en mettre une moins imposante et qu'on pouvait déplacer. Et pour en venir à bout, il a fallu que plusieurs personnes y aillent à la masse pendant 2 jours. C'est pour dire un peu le côté imposant de l'édifice. Alors je crois qu'on peut dire que cette impressionnante chaire n'était pas composée de pierres vivantes. Parce qu'une pierre vivante, dans l'église, est capable, par exemple, de discerner par elle-même, ou des fois avec un petit coup de main des frères et sœurs, quand son temps de service est révolu, ou pour le dire autrement, quand elle est appelée à autre chose, parce que le temps de service du chrétien n'est jamais vraiment révolu, évidemment. Et puis, elle est capable aussi de se déplacer toute seule. Notre bâtiment, aussi beau soit-il, et il est beau, est un empilement de pierres inertes. Notre bâtiment n'est donc pas l'église. Il est beau, il est pratique, on est très reconnaissant, mais il n'est pas l'église. Dans l'Ancien Testament, Dieu se rendait présent dans le temple. Ça signifie d'ailleurs pas qu'il n'était présent que dans le temple, mais c'est vrai que c'était là le lieu privilégié de la rencontre de Dieu avec son peuple. C'était là où il fallait se rendre pour lui offrir des sacrifices de reconnaissance ou pour obtenir le pardon de ses péchés. Mais à la Pentecôte, il y a quelque chose de merveilleux qui s'est passé, et c'est que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Et à partir de là, il nous est dit que le temple de Dieu, c'est nous, parce que Dieu vit en nous par son Esprit. Nous sommes les pierres vivantes de son Église. Nous sommes l'Église. Donc l'Église, la voilà. Voilà l'Église. Ce lieu-là n'a d'importance que parce que nous nous y retrouvons. Et je dirais même qu'il n'a d'importance que lorsque nous nous y retrouvons. Éphésiens 2 donne, je crois, une belle définition de ce qu'est l'Église. Si vous voulez me suivre, c'est Éphésiens 2, c'est au verset 18 à 22. Alors j'ai le texte ici, mais voilà, pour vous laisser le temps de chercher dans vos propres Bibles, je vais aller chercher dans la mienne, comme ça on est synchro. Éphésiens 2, 18 à 22. Nous dit, par lui, donc par Christ, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des exilés, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la maison de Dieu. Membres de la maison de Dieu. Vous avez été construits sur les fondations constituées par les apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. C'est en lui que toute construction bien coordonnée s'élève pour être dans le Seigneur un sanctuaire saint. C'est en lui que vous aussi vous êtes construits ensemble pour être une habitation de Dieu dans l'Esprit. Nous sommes construits ensemble pour être une habitation de Dieu dans l'Esprit. Le temple de Dieu, c'est nous, tous ensemble. Alors, j'ouvre une parenthèse simplement pour dire que ça n'est pas une raison pour négliger le bâtiment. D'abord parce que c'est Dieu qui nous l'a confié et il attend de nous que nous en prenions soin. On doit être de bons intendants des biens que le Seigneur nous confie. Et puis, d'autre part, parce que du fait même que c'est notre lieu de culte, c'est aussi un outil pour annoncer l'Évangile. Et je trouve que c'est intéressant d'y réfléchir un peu, parce que nous avons beau être le peuple de la parole, il n'y a pas que les mots de la prédication qui parlent de Dieu. C'est pour ça d'ailleurs que je suis si sensible à l'esthétique et au talent créatif qui se déploie dans notre assemblée. Parce que c'est important, je crois, de se demander, par exemple, ce qu'un sourd pourrait comprendre de Dieu rien qu'en entrant dans notre bâtiment, avant même que quelque chose soit dit. Ou un aveugle, qu'est-ce qu'un aveugle peut comprendre quand il vient ici ? La Bible nous parle, par exemple, d'un Dieu qui met de l'ordre dans le chaos, qui a fait une création magnifique, qui a fait toutes choses nouvelles, dont les bontés se renouvellent chaque matin. Alors, un lieu de culte beau, bien ordonné, joliment décoré, qui se renouvelle, parle de notre Dieu, qui est un Dieu vivant, qui aime l'ordre et la beauté. Est-ce qu'il se pourrait qu'un sourd comprenne quelque chose au message qui est transmis ici, par exemple ? Je crois que oui. Je crois que quelque chose est transmis là. La Bible nous parle d'un Dieu qui se révèle à nous tantôt dans un souffle léger, tantôt dans un bruit assourdissant. Parce qu'il y a des gens à qui il faut parler fort pour qu'ils entendent, Et puis, il y a aussi des hyperacousiques qui ont besoin qu'on leur susurre à l'oreille parce que quand c'est trop fort, ça les agresse. Le soin qu'on porte à la sonorisation de notre Église parle de Dieu aussi. La Bible nous parle d'une communion restaurée entre Dieu et les hommes et entre les hommes entre eux. Eh bien, le pain de la communion parle de notre Dieu. Est-ce qu'elle est bonne, cette communion ? Est-ce qu'elle est un peu rassie ? Est-ce qu'elle est généreuse ? Est-ce qu'elle est belle à regarder ? La Bible parle aussi de sacrifice à l'odeur agréable à Dieu. Dieu aime que ça sente bon. Eh bien, l'odeur de notre salle de culte dit quelque chose de notre Dieu. Mais ce bâtiment n'est pas sacré. Il n'est pas l'Église. Le temple de Dieu, c'est nous. L'Église, c'est nous. Et donc, c'est bien à nous que l'apôtre Pierre parle quand il dit « Construisez-vous pour former une maison spirituelle ». Et en fait, le grec emploie même la voie passive. Le grec dit « Soyez construits ». Soyez construits. Vous imaginez un chef de chantier s'adresser à un tas de pierres et lui dire « Bon, maintenant, soyez construites ». Ça ne fait pas bouger les pierres, a priori. Mais nous, ça nous fait bouger quand on nous dit « soyez construits », quand Dieu nous dit « soyez construits ». Ça nous fait bouger parce que nous sommes des pierres vivantes. Si on ne bouge pas quand Dieu nous parle, eh bien, c'est que nous sommes des pierres mortes. Et c'est ce que nous dit le verset 8, « Ceux qui trébuchent sur la pierre angulaire, ce sont ceux qui entendent la parole, mais qui refusent de bouger. » Une pierre morte, ça peut servir dans le bâtiment. On peut en faire une belle chaire en béton, inébranlable, quelque chose qu'on ne va pas pouvoir bouger, mais ça ne sera pas utile pour édifier l'Église du Christ. Notre part à nous, on la trouve au verset 4, quand il nous est dit « Approchez-vous de Jésus-Christ, pierre vivante. » Approchez-vous de Jésus-Christ, pierre vivante. Parce que Jésus n'est pas seulement vivant pour lui-même, Jésus donne la vie. Jésus est le pain de vie. Qui s'approche de Jésus est nourri. Il est construit, il prend sa place dans l'édifice. Il devient à son tour une pierre vivante parce que Jésus transmet la vie qui est en lui. Et alors, par Jésus-Christ, nous offrons des sacrifices qui sont agréés de Dieu. C'est notre texte qui le dit aussi. Et quels sont-ils ces sacrifices ? Je crois que Paul en parle en Romains 12, verset 1, quand il dit « Je vous exhorte, frères, au nom de la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant. » À vous offrir vous-même en sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. Ça sera là votre culte spirituel. S'offrir soi-même en sacrifice vivant, est-ce que c'est agréable ? Faut voir. Je vous présente donc Pétros. Pétros est une pierre brute, mal dégrossie, pleine d'aspérité, sympa et même jolie. Moi, je la trouve jolie, cette pierre, mais qui a bien du mal à être en communion avec Dieu et avec les autres. Bien du mal à trouver sa place dans l'édifice parce qu'il est mal taillé. Et maintenant, regardez ce qui se passe. Pétros, un jour, donne sa vie au Seigneur et il lui dit « Je te fais confiance. Ok, fais de moi ce que tu veux. » Eh bien, ce que Dieu veut, c'est façonner Pétros à l'image de son fils Lithos. Vous avez compris, c'est Jésus. Et qu'est-ce qui se passe ? Dieu attrape Pétros et il commence à tailler. Vous avez vu l'outil ? Quelque chose me dit que si Pétros pouvait parler, il aurait des choses à nous dire. Maintenant, je vous pose quand même la question : laquelle de ces deux pierres a reçu le plus d'amour et d'attention de la part du tailleur? Les coups de burin, c'est pas toujours agréable. Parfois, on comprend même pas leur finalité. Mais en tout cas, on aurait tort de les assimiler à un manque d'amour de la part du tailleur. Jésus est vivant, l'Église est vivante. Tous, nous y avons notre part, tous, nous y avons notre rôle à jouer selon les dons que le Seigneur nous a impartis. Où te trouves-tu, toi, dans cette construction ? Est-ce que tu es Pétros ? Est-ce que tu es Lithos ? Est-ce que Jésus est pour toi une pierre de soutènement, la pierre de l'angle sur laquelle tu construis ta vie et à partir de laquelle Dieu bâtit son Église ? Ou est-ce que Jésus est pour toi un rocher sur lequel tu trébuches et tu tombes. Nous sommes tous appelés à être ou à devenir des pierres vivantes dans cet édifice spirituel qu'est l'Église. Nous sommes encore au démarrage de cette année scolaire et je vous invite simplement à prendre parmi nous la place à laquelle Dieu vous appelle. Je vais prier. Seigneur, je veux te remercier de ce que tu as pris des êtres perdus et éparpillés pour constituer un peuple, pour bâtir ton Église. Je te remercie de ce que, pour cela, tu nous ramènes de la mort à la vie et tu fais de nous des pierres vivantes. Des pierres vivantes pour que nous soyons construits ensemble, pour que nous soyons ensemble cet édifice spirituel dans lequel toi tu vis. Seigneur, à cause de ce texte et d'autres, nous savons que tu es aujourd'hui au milieu de nous. Tu es là. Ton temple est là, parce que nous sommes là, et que tu vis en nous et au milieu de nous. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole. Nous te remercions pour la manière dont elle nous taille, nous les pierres brutes, mal dégrossies souvent. Nous te remercions, Seigneur, même dans les moments où c'est difficile, même dans les moments où on ne comprend pas, peut-être dans les moments où nous sommes vexés, fâchés, en colère, parce qu'on a pris un coup de burin et on n'a pas compris ni d'où il venait ni pourquoi. Seigneur, nous savons qu'il vient de toi, que c'est pour notre bien, que c'est pour nous façonner à l'image de ton Fils, pour que nous puissions, nous aussi, nous appuyer fidèlement, fermement, sur cette pierre d'angle que Jésus-Christ constitue pour nous et pour ton Église. Je veux te prier pour chacun d'entre nous, parce que chacun d'entre nous, nous avons besoin d'être taillés, plus ou moins. Il y en a qui n'ont même pas commencé à être taillés, qui sont encore dans la carrière de pierre là-bas, perdus au milieu des autres. D'autres qui ont commencé à l'être, qui commencent à mesurer aussi ce que ça peut représenter que de faire partie de ton Église. Nous te prions, Seigneur, vraiment pour que ton œuvre se fasse en nous, au milieu de nous, à travers nous, et que ton Église soit bâtie. Et nous sommes reconnaissants aussi de ce que c'est toi qui bâtis ton Église, de ce que cette charge-là ne repose pas sur nos épaules, mais que c'est ton œuvre. Nous nous émerveillons de ça, nous te remercions pour tous les témoignages de tous ces Pétros qui sont devenus Lithos et qui aujourd'hui forment ton Église ici à Chambéry. Au nom de Jésus. Amen.